des souvenirs de l'organiste du Stade olympique et des Expos de Montréal, Fernand Lapierre. De là à penser que les Expos sont revenus, les moteurs. J'ai vu plusieurs articles aujourd'hui qui nous disent que c'est même pas sur le bord d'arriver, des articles en provenance des États-Unis, un article dans Forbes notamment, mais il y a de l'excitation dans l'air, comme le soufflait à l'oreille Philippe Quentin il y a peu de temps. Philippe qui est avec nous, bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Une excitation prématurée sans aucun doute,
Philippe. Oui, prématurée, mais tellement compréhensible, Mario. Oui. Commençons d'abord par l'aspect sensationnel de tout ce qui se passe depuis une semaine. Qui aurait dit qu'on en serait là à la fin de 2018, il y a 5 ans, il y a 6 ans? On n'avait pas encore surmonté, en tout cas les amateurs de baseball n'avaient pas surmonté la douleur d'avoir perdu l'équipe. Les gens étaient encore frustrés par la manière dont ça s'est passé, toutes ces années d'agonie qui en finissaient plus. Et là, tout à coup, on s'est mis à recroire un peu au baseball. Des matchs pré-saison des Blue Jays, un enthousiasme qu'on n'avait pas attendu, un projet qui se lance. Et là, aujourd'hui, on se retrouve où Montréal est forcément le candidat de premier plan pour obtenir une équipe des majeures. Alors, le parcours, je pense qu'il faut prendre aujourd'hui un moment, là, juste pour prendre un peu de recul et réaliser l'ampleur du chemin parcouru depuis 5 ans. J'ai pas oublié la première conférence de presse annonçant des études qui étaient parrainées. Tu te souviens, par la Chambre de commerce du Montréal, Montréal métropolitain, oui. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans de mémoire, c'est en 2013, ça. Et quand cette première étude-là a été publicisée, annoncée, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par la rigolade en disant « Voyons donc, pensez pas au retour des Expos à Montréal, c'est absolument impossible, jamais le baseball va remettre les pieds à Montréal. » Puis écoute, c'est certainement un argument qui était valable, oui. Mais mine de rien, le dossier a continué son petit bonhomme de chemin. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve où... même dans des journaux de Tampa Bay, on dit que cette équipe-là, semble-t-il qu'elle s'en va à Montréal, c'est pas fait encore, mais je pense qu'il faut quand même réaliser que c'est un petit peu... Moi, là, personnellement, Mario, je trouve ça un peu inimaginable de voir le chemin parcouru depuis 5 ou 6 ans.
Est-ce que l'excitation que vivent les amateurs de baseball de Montréal et du Québec qui souhaitent le retour de cette équipe-là, on peut la comparer à l'excitation qui régnait à Québec quand on pensait que les Islanders étaient peut-être sur le bord de déménager, ouais. Ou encore les Coyotes de Phoenix? Ouais. Est-ce que ça va finir de la même façon?
Ben, je te dirais que c'est tellement pas le même type de dossier. D'abord et avant tout, on sent le baseball majeur très ouvert, en tout cas de la part du commissaire Rod Manfred, très ouvert à l'idée d'accueillir de nouveau Montréal dans ses rangs. Et ça, c'est pas, on n'infère pas simplement. Il l'a dit. Il a souvent parlé de Montréal comme candidate éventuelle à une équipe de l'expansion. Alors, il est cité. Il l'a dit plusieurs fois au cours des 2 dernières années. Alors, on aurait souhaité tous entendre des mots pareils de la part de Gary Bettman. Moi, quand j'entends Gary Bettman ou Bill Daly nous vanter la future rivalité entre Seattle et Vancouver dans la Ligue nationale de hockey, comme si c'était la plus grande affaire dans l'histoire du sport. Là. J'exagère un peu, mais quand même, je pense qu'on comprend un peu le sens de mon propos. Ça me choque parce que je me dis, écoutez, il y en aurait une rivalité là, qui a déjà fait ses preuves, qui était extraordinaire, malgré ses malheureux dérapages. Mais dans l'ensemble, ça a été une belle période. Alors,
j'aurais dû insérer dans mon propos quand même que la différence majeure entre le dossier, par exemple, de ramener une équipe ici, c'est qu'il y a déjà 7 équipes canadiennes dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a qu'une seule équipe canadienne et hors des États-Unis dans le baseball majeur.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et on sait que Rob Manfred, lui, il rêve d'une expansion internationale. Il a parlé au début d'une équipe à Mexico ou à Monterrey, en tout cas au Mexique, et là, aujourd'hui, et Montréal, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut, pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut comparer ça? Peut-être un peu, mais je trouve néanmoins que le dossier de Montréal, contrairement à celui de Québec, il suit une cadence plus lente au début, mais mieux planifiée un peu. Tu sais, à Québec, tout à coup, il y a eu un boom d'excitation. Puis là, c'est « Hey, on construit le centre Vidéotron, ce qui est devenu le centre Vidéotron. On va avoir les Coyotes, ils vont peut-être déménager. » Puis là, après ça, la déception est venue, puis elle a été très grande. Mais ça a été comme une explosion à partir de la Marche bleue en 2010. Tu te souviens, là, 50 000 personnes sur les plaines, puis tout ça. Et 2 ans plus tard, je pense que le chantier est en construction pour le nouvel amphithéâtre. Donc, ça a été très rapide, très intense, mais ça n'a toujours pas donné le résultat attendu. Tout à fait le contraire avec le projet des Expos. Ça a commencé beaucoup plus lentement. Au début, comme je le disais tantôt, beaucoup de rigolades quand les premières études ont été publiées. Mais là, le travail s'est fait patiemment, tranquillement, puis des gens crédibles se sont associés au projet. Tu sais, quand tu regardes que aujourd'hui, bon, Stephen Bronfman, qui fait partie d'une famille de baseball, son père qui a été propriétaire des Expos pendant des années, Pierre Boivin, qui est dans le dossier, ancien président du Canadien, crédibilité à toute épreuve dans le sport professionnel nord-américain, ce sont de gros noms, là. Puis tu regardes les actionnaires potentiels qui se greffent au groupe, ils mènent aujourd'hui des entreprises internationales qui ont des investissements partout dans le monde.
Et qu'ils ont parfois fondé, je pense, pour la plupart. Ouais. Alors, on a l'impression que ce serait un groupe de propriétaires plus solide que ce qu'on a eu auparavant.
Très bon point. Très bon point, effectivement.
On avait des gestionnaires de grandes entreprises dans le temps. Là, on a des fondateurs de grandes entreprises et, et actionnaires principaux. Fait que c'est pas la même affaire, là.
Non, puis ça, c'est complètement différent. Puis t'as raison de le mentionner. Puis tu sais, il a fallu qu'on développe cette richesse-là, cette expertise-là au Québec. Puis c'est drôle parce que je me rappelle d'une entrevue que j'avais fait avec Jacques Ménard en 1991. Tu te souviens quand les expos ont été vendus par Charles Bronfman à un groupe d'investisseurs québécois? Et à l'époque, M. Ménard était président du conseil d'administration des nouveaux expos. C'est lui qui avait notamment contribué à planifier la transaction et tout, là, qui avait fait en sorte que Claude Brochu et ses partenaires deviennent propriétaires. Puis il m'avait expliqué justement comment cette richesse des grandes familles, cette richesse corporative au Québec, elle était relativement nouvelle dans une perspective historique. Il fallait bâtir ça. T'sais. C'était pas comme aux États-Unis où il y avait des fortunes dans certaines villes qui étaient là depuis 150 puis 200 ans. C'était complètement différent. Et là, tu revois quand même à ce niveau-là le chemin parcouru par les entreprises québécoises depuis cette époque-là, depuis 1991, c'est quand même assez important.
Maintenant, au-delà de l'excitation, Philippe, il y en a qui sont très, très excités également à lancer le débat économique par rapport au fait que les investisseurs qui veulent ramener un club de baseball vont vraisemblablement demander un certain niveau d'aide gouvernementale, hein?
Oui, tout à fait. Puis là, il y aura un débat. Maintenant, moi, je pense que c'est un peu prématuré d'aborder cette question-là, puisqu'on n'est pas
d'accord.
Au courant
c'est
des
même
demandes.
Pas ce qu'ils demandent.
Ben voilà. Alors, attendons de savoir ce qu'ils demandent. Puis on voit bien. C'est sûr qu'il y aura toujours le courant là des gens qui s'opposent à tout craint, à toute aide publique. Puis bon, c'est certainement un point de vue qu'il faut.
Ah, c'est déjà parti.
Ouais, c'est déjà parti, c'est sûr. Je pense que c'est un point de vue qui est éminemment respectable.
Oh oui.
Moi, je préférerais qu'on attende beaucoup de voir un peu c'est quoi les demandes, puis qu'on regarde quel est le modèle qui va être mis sur pied. Parce que pour moi, c'est clair qu'une équipe sportive, ça apporte beaucoup à une ville. Imagine une équipe de baseball au centre-ville de Montréal qui serait, disons, dans la division avec Toronto, une équipe de New York et Boston. Tu sais, il suffit d'aller faire un tour à Toronto, voir un match de baseball et regarder combien cette équipe-là peut attirer des gens de l'étranger qui vont voir leur équipe à Toronto parce que, bon, ils combinent ça avec des vacances. Je pense que c'est un plus. Puis il y a aussi toute cette ce que fait une équipe pour tisser la communauté au sein d'une ville. Tu sais, ce sont des porte-étendards d'une ville. On se rassemble autour de nos équipes sportives. Et ça, pour moi, ça a une valeur aussi. Puis tu regardes aussi tout le coin de Montréal où on envisage de bâtir le stade. C'est certain que ça pourrait être un point d'ancrage très important pour le développement là, dans le coin du bassin Peel. Et je sais qu'il y a beaucoup d'économistes qui vont dire toujours la même chose, qu'au fond, c'est seulement de l'argent qui est là.
À des milliardaires.
Ou de l'argent qui aurait été investi d'une autre façon et tout. Je comprends, mais il y a quand même des projets aujourd'hui qui ont été extrêmement porteurs dans des villes. Je pense à Los Angeles avec le Staples Center. Je pense qu'ils font la même chose avec le Ice District à Edmonton. Alors, il y a quand même des projets qui ont été plein de succès. Cela dit, c'est sûr qu'il faut être prudent là, avant de trop s'enthousiasmer avec ça. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu mon intervention, Mario, en deux points. D'abord, l'excitation, mon étonnement devant le chemin parcouru depuis 5 ou 6 ans, mais d'autre part aussi, une certaine réserve. Parce que les événements qui se sont produits cette semaine, que ce soit la situation qui se corse à Tampa Bay ou encore le fait que l'étude là, qui a été dévoilée cette semaine est assez prometteuse pour permettre à analyser les chances de bien vivre d'Expo 2.0, tout ça c'est très bien, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Le dossier en est encore à ses premiers balbutiements et je pense qu'il ne faut jamais oublier une chose, là, c'est que déménager une équipe professionnelle, on l'a vu au football, ça s'est fait à 3 reprises dans les dernières dernières années, mais dans les autres sports, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Au baseball, la dernière fois, c'est justement quand les Expos, à la fin de la saison 2004, sont partis pour Washington. Puis dans la NFL, il y avait le grand marché de Los Angeles qui était disponible. Alors, c'est sûr que ça vient un peu modifier les cartes, mais je pense que déménager une équipe, ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est pour ça que j'encourage tout le monde à beaucoup, beaucoup de prudence avant de dire hey, c'est presque certain qu'il y aura une équipe de baseball dans un certain nombre d'années à Montréal. Moi, je ne suis pas prêt encore à dire ça.
Toute une fin de match hier dans la NFL entre les Chargers et les Chiefs, puis ça me faisait penser, tu sais, les matchs nuls dans la Ligue nationale de hockey où tu as un point même dans la défaite, où tu vois des équipes se contenter finalement de juste amener le match en prolongation en se disant au moins on part d'ici avec un point. Hier, les Chargers de San Diego ont fait preuve de beaucoup d'audace alors qu'ils viennent de remonter la côte et sur le bord de créer l'égalité avec les Chiefs. Ils ont le choix entre un converti d'un point qui les amène en prolongation ou tenter un converti de deux points qui leur fait gagner le match. Ils choisissent la deuxième option. Quelle victoire des Chargers hier, Philippe.
Et oui, c'était tellement excitant de voir ça. Moi, je suis resté très étonné quand j'ai vu qu'ils y allaient pour le deux points, parce que s'ils le ratent, ils perdent le match. Là, c'est pas compliqué. Et ils donnent à ce moment-là le championnat de la division aux Chiefs, parce que compte tenu du classement, ça aurait été ça, l'effet. Donc, c'est quand même assez formidable de voir l'impact de la décision et surtout le cran de l'entraîneur-chef des Chargers de San Diego, Anthony Lynn, qui a vraiment pris une décision. Je disais aujourd'hui, c'est comment dans un article d'ESPN, puis il dit, voyons, c'était pas compliqué. Il dit, on n'est pas venu ici pour annuler ou encore moins pour perdre. On est venu ici pour gagner, puis on avait une chance de gagner.
Mais s'il ratait le jeu?
Pardon?
S'il ratait le jeu, qu'est-ce qu'on aurait dit
sa décision? S'il rate le jeu, là, la journée n'est pas facile pour lui à San Diego, parce que là, tout le monde va dire une chose, c'est que tu aurais dû prendre le point, aller en prolongation, puis là, prendre tes chances en prolongation. Mais j'ai l'impression que face à l'attaque très explosive des Chiefs à Kansas City, il s'est dit, moi, il ne faut pas que je me fasse toucher en partant. Alors, aussi bien saisir ma chance, j'ai une chance de gagner le match. Mais il n'en reste pas moins que prendre cette décision-là. Il faut que tu aies du cran, parce que ça peut... Aujourd'hui, il passe pour un champion, mais ça peut se retourner contre lui. C'est toujours ça avec un entraîneur qui est un peu plus audacieux. Puis c'est pour ça souvent qu'au fil de la saison, tu vas voir des entraîneurs qui ont commencé avec un peu d'audace en début de saison puis qui deviennent un peu plus prudents au fil de la saison, qui vont peut-être utiliser un peu moins des jeunes, qui vont être un peu plus conservateurs dans leur approche d'attaque massive. Mais moi, j'aime cette audace-là. J'aime le fait qu'un entraîneur ait décidé, hey, on y va coûte que coûte, on y va pour gagner. Ça envoie un message à ses joueurs de... On est prêt à prendre des chances, puis surtout, on croit en vous. Comme entraîneur, moi, je crois en vous. Je pense que vous êtes capable de le faire, le deux points. Puis si vous le faites pas, ben c'est moi qui vais prendre le blâme. Je trouve que le message envoyé aux joueurs, il est extraordinaire.
En quelques secondes, en terminant, je sais pas s'il y avait un parallèle conscient ou inconscient, mais trouves-tu que Claude Julien fait preuve d'audace derrière le banc du Canadien, mon cher Philippe?
Ben, j'ai trouvé qu'au début de la saison, il le fait beaucoup, je pense, et on en a parlé, toi et moi, Mario, que garder Jesperi Kotkaniemi dans l'équipe, là, personne, en tout cas au début du camp d'entraînement, s'attendait à ça. Je trouve que parfois, il a un petit peu de tendance à revenir à ses réflexes plus traditionnels. Mais j'ai hâte de voir un peu comment il va évoluer dans tout ça au fil de la saison, parce que là, ça s'annonce assez... pour le Canadien, c'est pas trop mal. Deux matchs à la maison, mais après ça, c'est le périple de 6 rencontres. Oui. Très difficile. 3 matchs avant Noël, 3 matchs après Noël à l'étranger. Et ça va être une période tellement importante pour le Canadien. À quelque part, je pense qu'il va falloir qu'il joue un petit peu d'audace, oui.
Sur ce, Philippe, une excellente fin de semaine. On s'en reparle bientôt.
Merci beaucoup. Salut, Mario.
Merci. Bye-bye. On revient dans un instant et ça se poursuit aux amateurs de sport.